prêté pour un rendu entre l'Uruguayen et le Brésilien pour la show qui est notre nègre.
L'avant-match avec Jeannelle Bouzrara.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'après, de l'avant-match, et pas l'après-match, puisqu'on est vendredi les amis, et vendredi bien sûr c'est pour revenir et évoquer ce qui nous attend tout au long de cette fin de semaine un petit peu partout, en Europe bien sûr, en Espagne où on en annonce que le Classico est reporté, une Espagne folle de football. Le Classico Barça-Real est sacré, mais les troubles survenus cette semaine en Catalogne ont perturbé jusqu'à cette rivalité centenaire. Le Real Madrid à Majorque, le Barça est bar, le leader et son dauphin qui vont se livrer un duel à distance pour la tête du classement lors de la 9e journée du championnat, marqué par l'affiche Atlético Madrid contre Valence. En Italie, après avoir repris sa position tête de la Serie A, juste avant la trêve, la Juventus affrontera Bologne avec son statut de leader. Et puis en Angleterre, tout le monde attend bien entendu le choc entre Liverpool et Manchester United. Manchester United déjà à la peine en championnat, qui sera privé toujours de son milieu de terrain Paul Pogba et très probablement aussi de son gardien espagnol David De Gea. L'Angleterre aussi avec ces critiques de l'entraîneur de Chelsea, critiques à peine voilées à l'encontre des dirigeants de la Fédération française de football et du sélectionneur Didier Deschamps après la titularisation de Conte qui est arrivé blessé dans le stage de l'équipe de France. On parlera aussi d'Allemagne avec le derby des Borussia, Borussia Mönchengladbach contre le Borussia Dortmund. Et on parlera du championnat de France aussi, du Paris Saint-Germain. Le PSG qui joue contre Nice, le PSG avec cette question, mais où est passée la MSN Mbappé, Cavani, Neymar, le trio de rêve qui n'a pas joué un seul match ensemble depuis le début de la saison. Permettez-moi d'accueillir tout d'abord, actualité chaude oblige, notre ami Fred Hermel. Salut Fred.
Salut Jeannelle, bonsoir à tous.
Avec nous également notre ami Hervé Penaud. Salut Hervé.
Bonsoir à tous, quel programme! Oh là là, mais il y en a des choses à dire.
Il y en a des choses à dire. Et je vais commencer avec toi d'ailleurs, Hervé, pour évoquer l'équipe du Maroc, une sélection marocaine qui s'est inclinée mardi ici à Tanger face au Gabon. Avant de donner la parole, on écoute la réaction de Wahid Halilhodžić, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, qui a bien besoin de soutien. Il n'y a rien qu'à l'écouter. Écoutez.
Ils ont profité un petit peu de notre erreur. Et ben, il faut féliciter. C'est une très belle équipe avec un joueur classe mondiale de Douvon. Ils ont fait bon match. Ils ont s'est bien battu. Ben, ils méritent la victoire. Voilà. Ben, cette défaite, il nous faisait un petit peu mal quand même parce que j'ai demandé bien sûr ce soir la victoire. Je ne peux pas dire que le garçon il ne voulait pas. On a fait trois cadeaux, ils ont marqué trois buts, on a créé pas mal d'occasions avec quelques belles actions, quelques frappes, on réussissait pas notre côté. Un petit peu, chaque fois après cadeau, je vis un petit peu de panique. Vous savez, les garçons que j'ai utilisé, presque 32 joueurs de ce stage, c'est pas meilleure équipe de Maroc, c'est équipe B, c'est équipe C. Vraisemblablement pour match mois novembre, ça sera meilleure équipe. Il y a manqué pas mal de joueurs. Et ben, certains garçons, ils ont montré ses qualités, certains un petit peu moins. Et après tout, qu'est-ce que j'ai vu, il faut maintenant construire une équipe, un groupe qui peut jouer les qualifications à partir de mois novembre.
Voilà, donc en tout cas ça a le mérite d'être clair et c'est sympa pour ceux qui ont joué ces matchs équipe B, équipe C. Bah, il est assommé, en tout cas, à entendre parler et à entendre commenter Wahid Halilhodžić, cette série de rencontres disputées par les Lions de l'Atlas Hervé.
Oui, alors effectivement, les propos sont forts, on va pas dire le contraire, et ceux qui étaient sur le terrain doivent se dire... pas certain que j'y sois la prochaine fois. Alors, il y avait beaucoup d'absence, on le sait, et cette volonté de faire un petit peu le tour de la question hein, pour Vahid, coach Vahid, c'était important de connaître la capacité de chacun à réagir dans une adversité qui était quand même largement dans les cordes de l'équipe du Maroc. Alors, défensivement, ça a quand même été très faible. Les buts, quasiment des buts donnés. C'est vrai que là, il y a des interrogations aujourd'hui sur cette équipe du Maroc. Le départ de Benatia, c'est pas rien. Alors, Boussoufa, pareil, hein, faut surtout pas oublier Boussoufa. Les absences qu'il y a pu avoir, alors Boussoufa, on verra ce qui va se passer pour la sélection, hein, mais les absences de Belanda, souvent critiquées pourtant, hein, et tous les autres, hein, on pourrait les égrener, il y en a eu quand même un paquet. Et puis c'est vrai que ceux qu'on espère maintenant à un très haut niveau, les Hakimi, etc., bah, c'est à eux de prendre cette sélection marocaine. Et force est de constater aujourd'hui que ça n'a pas fonctionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que depuis son arrivée à la tête de cette équipe du Maroc, évidemment, pour Vahid Halilhodžić, c'est pas le sourire permanent, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il va falloir aujourd'hui un petit peu retravailler tout ça. Il va falloir qu'il resserre le groupe. Il a utilisé beaucoup de joueurs, il y en a certains qui reviendront pas certainement. Alors il y a des Taraptes hein, qui ont pu tirer leur épingle du jeu, mais pour Vahid, il va falloir assez vite relancer la machine. C'était des matchs amicaux, il faut pas l'oublier. Maintenant, il va bientôt y avoir les matchs éliminatoires qui vont rentrer en ligne de compte. Ça va être très différent parce que évidemment, on connaît en plus le public marocain, on connaît les suiveurs marocains, c'est qu'ils attendent des résultats. Depuis quelques années, il y a quand même eu des très bons résultats, en dépit de cet échec lors de la dernière CAN. Mais il y avait un renouveau absolu hein, du football marocain, que ce soit en club, il ne faut certainement pas oublier les clubs, et en sélection. Là, c'est la soupe à la grimace, il va falloir vite se reprendre. Et connaissant Vahid, je sais que là, il a pris un petit coup, mais il va être capable tout de suite de switcher, parce que de toute façon, il a pas d'autre alternative. Hein. Maintenant, il faut rentrer dedans, surtout essayer de récupérer le maximum de monde pour les matchs éliminatoires, et puis après voir ce que ça va donner. Il ne faudrait pas que son retour au Maroc soit un échec. Il a réussi dans un club, donc maintenant une sélection. Je crois encore qu'il est capable de resserrer les boulons et resserrer les vis. Maintenant, le connaissant, il va resserrer très fermement, et il va falloir aussi qu'en interne, ça n'entraîne pas trop de grincement dedans.
Alors, tu as évoqué le public marocain qui ne s'est pas mis dans la poche et pas seulement par rapport aux performances, au niveau et aussi aux résultats de cette équipe du Maroc, aussi bien entendu cette déclaration malheureuse, on va dire, de Wahid Halilhodžić au sujet des joueurs évoluant en Botola. Il a essayé de s'expliquer une deuxième fois, expliquer en tout cas sa pensée, on l'écoute.
Ça c'est mon opinion. Mon opinion, comme vous avez raison, est différente, que les joueurs ils ont un beau talent, mais sur le plan physique, sur le plan de la puissance comme ça, il manque un petit peu. Il y a quelques joueurs de bonne qualité maintenant. Mais est-ce qu'il peut tenir rythme comme ce soir, qui certains ont donné? Je ne suis pas sûr, peut-être, mais on est en contact avec, j'ai déjà appelé dizaines de joueurs locaux, certains ont même joué comme ça. Et moi, je sais, quand j'ai passé certains tests, je vais encore et j'ai, à chacun joueur, je donnais mon opinion avec mon staff, comment suivi, comment progresser dans son travail, programme spécial, individuel. Ben, il faut qu'il fasse de son club, parce que l'équipe nationale, on ne peut pas travailler beaucoup. Ça veut dire, je ne veux pas négliger surtout pas le football local. J'ai déjà expérience, j'ai vécu comme ça, et j'ai trouvé Algérie, deux, trois joueurs qui sont devenus après. Bon jeu, mais pourquoi pas au Maroc, qui ne vous cherchait pas. Mais je donnais mon avis, ben, si certains sont pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. Moi, je donne mon opinion parce que je l'ai regardé, j'ai observé et j'ai fait même un petit peu mes analyses avec mon staff technique.
Voilà. Voilà donc pour cette polémique. On va aller maintenant voir ce qui se passe du côté de l'Espagne et il se passe... Allez, une énorme information, l'annulation, le report plutôt du Classico qui était prévu d'ici une semaine, le 25 octobre, un match reporté, comme je le disais tout à l'heure, c'est un fait rare. mais pas inédit. La fédération a annoncé donc l'ajournement de cette rencontre prévue le 26, expliquant qu'il s'agit de raisons exceptionnelles, selon les médias, les militants indépendantistes catalans mobilisés contre la lourde condamnation des dirigeants séparatistes envisagent de convoquer une grande manifestation à Barcelone ce même samedi. Fred, qu'est-ce qui se passe? On nous prive du match le plus regardé de la planète. Hein. Il faut qu'on donne quand même quelques chiffres, bien entendu, pour les 47 millions d'Espagnols, dont 7 millions de Catalans, Classico. C'est un moment de communion, le match le plus regardé de la planète, avec ses 650 millions de téléspectateurs attendus à chaque édition.
Oui. C'est vrai que c'est une déception, mais il va avoir lieu ce match. Il va être décalé pour une raison très simple, c'est que la sécurité ne peut pas être assurée au stade et dans les rues. Donc c'est tout à fait logique que le match soit reporté. À partir du moment où les séparatistes mettent Barcelone à feu et à sang et qu'il y a de nouveau une manifestation monstre et des grèves prévues pour le jour du match, la police ne peut pas assurer la sécurité dans les rues et la sécurité autour du match. Donc c'est tout à fait logique. Bon, sur ce thème-là, moi je me souviens d'une fameuse manita, un 5-0 du Barça de Guardiola face au premier classico du Real de Mourinho. Le match s'était joué un lundi soir, puisque le dimanche, il y avait les élections catalanes, et la même chose, la police estimait que c'était compliqué d'assurer la sécurité habituelle autour des élections et la sécurité autour du match. Donc, c'est pas inédit que le Classico soit reporté. Là, il y a, comme toujours en Espagne, cherche un mot, le souk, on peut dire le souk, ça passe? Parce que c'est toujours la guerre entre la fédération et la Liga.
Comme Soko, nous voilà. À Tanger, on a deux Soko, le Soko Alto et Soko Barra, ce qu'on dit, le Soko de Fuera. Donc là, il y a encore un Soko en Liga.
Voilà, bah là, parce que toujours le foot espagnol est toujours au milieu de la petite guéguerre de la fédération et de la Liga. Tout a commencé par Javier Tebas, le président de la Liga que je défends. Toujours, mais là je vais pas le défendre. Qui dit voilà, comme le match pourra pas jouer à Barcelone, on comprend, hein, on va interchanger les dates, c'est-à-dire que on va faire plutôt que de faire un Barça-Real, on va faire un Real-Barça. Sauf que les clubs disent y a un tirage au sort qui est fait comme ça. Il va y avoir une influence sur la compétition. C'est vrai que entre jouer un match à domicile et à l'extérieur, c'est pas pareil. Donc c'est mettre en danger la légalité de la compétition. Les deux clubs et la fédération étaient d'accord là-dessus. Ok. Donc ensuite Tebas dit on va jouer ça le 7. Oui, mais sauf que le 7, il y a une autre journée de Liga. Oui, mais on va bousculer les matchs pour que les matchs prévus du Barça et du Real prévus le 7 se jouent le mercredi 4 et que Tebas puisse placer son match un samedi à 13h comme c'était prévu pour que ça se vende bien en Chine. Oui, mais sauf que les clubs disent non, on va pas tout bousculer les calendriers, etc. Et ça nous arrange pas. Pourquoi ça n'arrange pas les clubs? C'est un peu long, mais il faut vraiment expliquer tout. Parce que trois jours plus tard, le Real joue son avenir en Ligue des Champions à Bruges et que le Barça joue la première place, voire peut-être son avenir, parce que ça se passe pas très très bien non plus pour le Barça en Ligue des Champions, sur la pelouse de l'Inter Milan. Donc, ils n'ont pas envie, les deux clubs espagnols, d'avoir un match aussi dur physiquement, émotionnellement, footballistiquement, physiquement, tout ce que vous voulez, trois jours avant un match qui va être sûrement décisif pour la Ligue des Champions. Donc, aucun des clubs n'avait envie de jouer le 7. Ils n'avaient pas non plus envie de jouer le 4, qui est un mercredi libre, parce qu'il n'y a pas de match cette semaine-là, pour une raison très simple, c'est qu'ils ne veulent pas jouer un mercredi, le 4, jouer le week-end et jouer trois jours après les deux matchs dont je viens de vous parler. Donc, le comité de compétition, qui est celui qui décide de la fédération espagnole, qui avait été sollicité par Tebas pour changer l'ordre des matchs, lui dit, écoutez, on annule, on reporte le match et ce sont aux clubs de se mettre d'accord. Et les clubs, ça s'est fait en 30 secondes. On dit non, ok. Il y a un premier tour de Coupe du Roi auquel ne participent pas les quatre premiers clubs puisqu'ils vont jouer une super coupe au mois de janvier, donc ils vont entrer plus tard dans la compétition de la Coupe du Roi. Ils disent voilà, il y a un mercredi libre, c'est le 18 décembre, ça arrange le Real, ça arrange le Barça. Pourquoi ça les arrange? Tout simplement parce que la Ligue des Champions sera terminée. Et donc, il n'y aura pas d'interférence du Classico sur le parcours des deux équipes en Ligue des Champions. Et donc, ces deux clubs veulent jouer le mercredi. La fédération, le comité de compétition avait déjà pensé à ce jour-là, au 18 décembre. Mais, et on vient de l'apprendre, le journal AS a eu des fuites, ça va aller devant la justice, puisque Tebas, le président de la Liga, considère que c'est un problème pour la vente des droits au niveau international. Bref, c'est le soco absolu, mais au moment où je vous parle, ce match, c'est sûr, ne va pas jouer le 26, mais il y a quand même de grandes chances qu'il se joue le 18 décembre, puisque ça arrange tout le monde, sauf Monsieur Tebas.
Bon, on va écouter justement la réaction d'un quelqu'un qui est très concerné par ce report, Zinedine Zidane, mon frère, cher Fred, et tu étais à la conférence de presse tout à l'heure de l'entraîneur du Real Madrid. Qu'est-ce que ça change pour le Real, le report de ce Classico? On l'écoute.
Non, ça ne change pas la donne du tout. On a un match important demain, très important. On aura un match mardi... encore plus, et après on sera prêt pour jouer si on doit jouer samedi. On s'adaptera à ce qui va se passer, à ce qu'on va nous dire. Nous, on sera préparé, ça c'est sûr. C'est ce qu'il faut en tous les cas. C'est mon message, c'est d'être prêt. On sait qu'on est prêt pour faire les trois matchs.
Voilà donc pour ce Classico reporté. On reste avec toi, mon cher Hervé Penaud et Fred Hermel aussi. D'abord, Fred, rapidement, le Real qui joue à Majorque, le Barça à Eibar, le leader et son dauphin qui vont se livrer un duel à distance dès ce samedi pour la tête du classement. Une journée qui sera marquée par cette affiche Atlético Madrid-Valence. D'abord, le duel à distance entre le Real et le Barça.
Ouais, en sachant que le Barça est déjà parti au Pays Basque, puisqu'à cause de la grève générale aujourd'hui qui est en Catalogne, le Barça n'a pas voulu prendre de risques. Donc ils sont depuis hier au Pays Basque, ils s'entraînent à Vitoria pour aller jouer à Eibar samedi. C'est pas un match facile. Vous savez, Eibar, c'est le plus petit stade de la première division. C'est une toute petite pelouse. Il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est jamais un match facile. Alors que le Real se déplace à Majorque chez un promu. Mais enfin, on sait que les promus en Espagne, ils sont en général assez bons puisque la deuxième division espagnole est d'un très bon niveau. Donc là non plus, ils peuvent pas se permettre de faire de bêtises. Mais voilà, dans la tête des deux équipes, surtout le Real qui joue vraiment son avenir à Galatasaray mardi, tout le travail de Zidane va être de faire que les joueurs pensent avant tout au match à Majorque et n'aient pas dans la tête ce match couperet en Turquie mardi soir de Ligue des Champions, bien entendu.
Merci Fred. On va aller du côté de Paris avec cette question sur la une du journal L'Équipe où tu sévis, mon cher Hervé. Mais où est donc passée la MSN avec Kylian Mbappé, Edinson Cavani qui revient de blessure, qui devrait réintégrer le groupe pour ce match contre Nice à l'occasion du déplacement de l'équipe parisienne à Nice. Neymar est à nouveau blessé avec sa sélection. La MSN qui n'a plus été titularisée au complet depuis 9 mois. Énorme.
Absolument, MCN d'ailleurs, c'est la MCN, parce que effectivement, c'est une équipe qu'on n'a plus vue depuis Guingamp, le fameux 9-0, une triplette qui a débuté ensemble, mais c'est une interrogation. On sait ce qui est advenu de Neymar, blessé permanent, on sait ce qui arrive à Cavani, blessé permanent, et en plus c'est ajouté mettant la nouvelle blessure de Kylian Mbappé, qui lui avait quand même été épargné, qui avait fait une fin de saison absolument époustouflante en marquant 15 buts si je ne m'abuse dans les 12 derniers matchs, enfin ça avait été un truc absolument incroyable. Donc aujourd'hui, on attend de retrouver ces trois joueurs les uns avec les autres, mais le problème, parce qu'il y a problème mon cher Jalal, c'est de savoir est-ce que Cavani va devenir rester un titulaire indiscutable dans cette MCN. Parce que aujourd'hui, évidemment, autant Neymar et Mbappé, quand ils vont revenir, alors Mbappé revient dès ce soir, Neymar reviendra un peu plus tard, mais quand ils vont revenir, de fait, ils seront titulaires. On n'en discute pas. En revanche, il y a une vraie interrogation sur Cavani, qui en a une dernière année de contrat, qui a trouvé maintenant un Icardi dans les pattes pour essayer de lui faire de la concurrence au poste d'avant-centre. Et puis surtout, ne l'oublions pas, l'apport de Di Maria, qui fait peut-être l'une de ses meilleures saisons, et même l'année dernière qui avait été énorme aussi, et qui là en ce moment vole sur l'eau. Donc marche sur l'eau, pardon. Donc Donc, il y a une possibilité d'avoir une triplette offensive qui existe avec Di Maria, Neymar, Mbappé, sinon avec Icardi, voire si vous jouez avec 4 joueurs, avec Icardi et avec Di Maria. Donc aujourd'hui, la question, c'est de savoir si cette triplette va rester une triplette, la triplette du Paris Saint-Germain. Moi, je vous avoue, je pense que Cavani, malheureusement pour lui, qui est un joueur énorme, qui a beaucoup, beaucoup de qualités, on parlait de l'Atlético Madrid qui était à bloc sur lui, je pourrais tout à fait comprendre qu'un club comme l'Atlético l'utilise. En revanche, pour une équipe comme le Paris Saint-Germain, avec des joueurs offensifs très techniques, c'est plus compliqué parce qu'il n'a pas la capacité technique, lui, à jouer avec les autres. Hein, c'est pas Karim Benzema. Vous imaginez un Karim Benzema, par exemple, dans cette équipe du Paris Saint-Germain, il n'y aurait aucun souci parce que techniquement, il est largement à ce niveau-là et donc les joueurs pourraient jouer sur lui. Là, c'est plus compliqué. Donc j'ai bien peur que cette MCN soit un petit peu sur la fin. Alors, ils joueront certainement quelques matchs ensemble. Hein, ça, c'est pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand tout le monde sera là, quand il faudra jouer les grands matchs, je ne suis pas certain que Cavani soit le titulaire, sachant que Tuchel, déjà l'année dernière, c'était pas son joueur préféré, on va dire, hein, pour essayer de résumer un peu la situation. Donc aujourd'hui, deux joueurs assurés de jouer, Neymar, Mbappé, un Cavani un peu plus en difficulté.
MCN, effectivement, et pas MSN, Messi, Suarez, Neymar. La trêve internationale, Hervé, a chamboulé un petit peu le paysage du championnat de France. Rudy Garcia à Lyon, Antoine Camboire à Toulouse. Ils effectuent tous les deux, bien sûr, leur début à la tête de leur nouvelle équipe. Et tout ça intervient après le retour aussi en Ligue 1 de Claude Puel avec Saint-Étienne juste avant cette trêve. Les bons de touche font peau neuve dans le championnat de France. On s'intéresse aussi peut-être tout particulièrement au retour de Rudy Garcia à Lyon où franchement il sera pas bien reçu par les supporters. En tout cas, c'est ce qu'on croit savoir.
Et dans ce tableau qui est un bon résumé effectivement de notre intersaison, il y a une petite chose aussi, c'est le fait que Laurent Blanc n'ait pas trouvé de club. Parce que lui était le favori à Lyon et finalement il n'est pas arrivé à Lyon parce qu'il voulait venir avec trois adjoints, qu'à Lyon on n'aime pas bousculer les habitudes, hein. Et il y avait Baticle et il y avait Cassapa, donc il n'était pas question de les faire partir. Donc ils ont préféré parer au plus pressé avec la solution qui leur paraissait la plus logique à court terme, c'était Rudy Garcia. Et à Rudy Garcia qui arrive, alors attendez, dans une ambiance pour le moins étonnante et même étrange. Parce que rappelez-vous quand même comment Genesio avait été taillé. Et récemment, il y avait un petit sondage sur l'équipe d'Estelle, qui est une émission de la chaîne L'Équipe, sur préféreriez-vous Genesio sur un banc ou Garcia. Et à 68% ou quasiment 70%, les gens préféraient Bruno Genesio. Alors vous imaginez en quel état il est parti. C'est pour vous dire à quel point il arrive dans une sorte de défiance généralisée. Et il va falloir qu'il soit bon tout de suite. Il va falloir que dès son premier match contre Dijon, alors bien sûr ce n'est que Dijon, mais enfin Lyon depuis le début de saison n'a pas non plus montré contre les petites équipes qui a été toujours présente. Mais il n'empêche que là, dès le premier match, il va falloir qu'il soit là. S'il se plantait par exemple contre Dijon, là il y aura un terrible grincement dedans. Je peux vous assurer que le stade, ça sifflerait de manière incroyable et tout le monde sera en train de dire ça y est, Jean-Michel Aulas s'est planté, etc., etc. Donc il est déjà, lui, sous la pression de la premier résultat contre Dijon, après d'aller en Coupe d'Europe à Benfica. Alors la chance qu'il a, pour tout vous dire, au niveau du championnat de France, c'est que les trois prochains matchs de Lyon sont Dijon, Metz, encore à domicile, et un déplacement à Toulouse. C'est-à-dire que logiquement, un bon Lyon, même un Lyon pas mal, on va dire, c'est largement dans ses cordes. Donc ça pourrait quand même lancer l'aventure de Rudy Garcia, car lui, c'est que déjà, il est sous le feu des critiques, et parce qu'il avait une com un petit peu moyenne à l'époque quand il était à Marseille, mais bon, ça faisait un peu partie du jeu. Et puis on sait un peu le tempérament qu'a Rudy Garcia, il fait beaucoup de com, il parle beaucoup, et puis ça plaît pas toujours à tout le monde, mais c'est quand même quelqu'un qui a déjà beaucoup gagné en France, qui a emmené la Roma en Ligue des Champions. Il a quand même prouvé qu'il avait les qualités pour être un très bon entraîneur. Et surtout, mentalement, je pense qu'il va remonter les joueurs. Et ça va leur faire du bien.
Merci beaucoup, Hervé. Merci à Fred Hermel. Cette première partie qu'on a consacrée, bien entendu, au football en France, en Espagne, mais aussi au Maroc, avec la fin de série des matchs amicaux pour les Lions de l'Atlas avant d'entrer en matière en éliminatoire de la CAN en novembre prochain. En seconde partie, il sera question du championnat d'Italie, de la Bundesliga et de la Première Ligue anglaise. Bienvenue les amis dans cette seconde partie de l'avant-match après l'Espagne et la France, cap sur l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. En Allemagne, les cadors de la Bundesliga qui ont tous gros à jouer ce week-end avec 5 équipes à égalité de points à la 3e place, tandis que le nouveau leader, Mönchengladbach, compte bien remporter le derby des Borussia et plonger Dortmund dans la crise. En Italie, après avoir repris sa position en tête de la Serie A juste avant la trêve, la Juventus affrontera Bologne avec son statut de leader lors de la 8e journée. Qui verra également les entraîneurs Stefano Pioli et Ranieri débuter leur mission de sauvetage de leurs clubs respectifs, l'AC Milan et la Sampdoria de Gênes. Et puis, en Angleterre, si Liverpool a fait le trou en tête de la Premier League avec 8 points d'avance après 8 journées, derrière, entre gros irréguliers et petits sans complexe, les places dans le wagon qui pourrait mener à l'Europe sont chères, voire même très très chères. Les amis, on va commencer par l'Angleterre, justement, avec notre ami Aurélien Devernois. Salut Aurélien.
Salut Jalal, bonsoir à tous.
Alors, on évoquera bien sûr avec toi ce championnat d'Angleterre et d'abord ce choc dimanche, Manchester United contre Liverpool. Difficile d'imaginer les hommes de Ole Gunnar Solskjaer faire dérailler la machine à gagner qui est devenue Liverpool avec son incroyable série de 17 victoires d'affilée depuis la fin de la saison dernière.
Oui, et puis d'autant plus que Liverpool espère bien atteindre les 18 et égaler ainsi le record établi par Manchester City il y a 2 ans. Donc oui, forcément, Liverpool débarque du côté de Manchester avec une position d'ultra favori. Et c'est vrai que quand on regarde le classement de Manchester United, qui est 12e avec 9 points, là où Liverpool en a déjà 24 au bout de seulement 8 journées, hein, tu le disais, Jalal, c'est vrai que cette affiche paraît un petit peu déséquilibrée. Mais il faut quand même savoir que déjà les déplacements de Liverpool sur la pelouse de Manchester United se passent rarement bien. Même la saison dernière, quand Manchester jouait vraiment extrêmement mal, Liverpool n'avait fait que match nul alors que tout autour il n'y avait que des victoires pour les Reds. Donc c'est toujours un déplacement un petit peu délicat. La rivalité entre les deux clubs, ces deux clubs du nord de l'Angleterre, est aussi très forte. Donc il y a toujours une espèce de surplus de motivation des deux côtés qui fait que c'est des matchs qui sont souvent très fermés. Alors en plus, Solskjaer va quand même pouvoir récupérer quelques joueurs lors de cette rencontre. A priori, Anthony Martial, l'ailier français, va revenir. Aaron Van Bissaka, le latéral anglais aussi, Lindelof, le défenseur central également, Luke Shaw apparemment aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de joueurs qui seront finalement présents pour ce choc. Et on se dit que voilà, Manchester joue un petit peu aussi la suite de sa saison sur cette rencontre, parce que s'ils perdent, ils peuvent se retrouver en position de relégable à l'issue de cette 9e journée. Donc ça la ferait quand même pas trop pour Manchester United. Donc voilà, ça risque d'être serré. Le seul problème côté United, c'est qu'il y a 2 forfaits qui ont été confirmés là ces dernières heures. C'est celui prévisible de Pogba et celui un peu plus surprenant, même si on savait qu'il était sorti blessé en sélection, de De Gea. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour United.
Ouais, très mauvaise nouvelle pour Manchester United, le forfait du portier espagnol, l'équipe de Manchester qui pourrait aussi profiter, pourquoi pas, Aurélien, de la réception du leader pour se relancer.
Oui, c'est en tout cas ce qu'espère Solskjaer, parce que évidemment sa place est quand même un petit peu menacée, même si officiellement les dirigeants de Manchester United disent on lui fait confiance, il est dans la ligne de ce qu'on veut faire, un jeu plus offensif, faire monter les jeunes du centre de formation, etc., etc. Sauf que, on va être honnête, c'est Manchester United, c'est pas Burnley, quoi. Si vous voulez, les objectifs d'un club comme United, qui est le club le plus riche du monde, ou l'un des clubs les plus riches du monde, qui a une palanquée de trophées, c'est pas de finir 10e du championnat d'Angleterre. Donc, même si Solskjaer a pour l'instant, on va dire, le soutien de ses dirigeants, si United prend 5-0 à domicile contre Liverpool, et c'est possible, vu le potentiel offensif de Liverpool, ça risque de quand même commencer à sentir très mauvais pour l'entraîneur norvégien.
Voilà donc pour ce choc très vintage entre Manchester United et la formation de Liverpool. On suivra aussi avec beaucoup d'intérêt Manchester City. Manchester City qui, avant la trêve, reste sur une étonnante défaite pour la formation entraînée par Pep Guardiola. Cette défaite 2-0 face à Wolverhampton. C'est à Crystal Palace que les Citizens ont rendez-vous pour essayer un petit peu d'effacer la France subie et de ne pas laisser partir presque définitivement cette équipe de Liverpool qui compte déjà 8 points d'avance sur City.
Oui, et c'est pas un déplacement facile pour Manchester City, parce que Crystal Palace est vraiment une des équipes, je dirais pas surprise, parce que déjà la saison dernière, ils avaient fait beaucoup de matchs très intéressants, ils ont une équipe qui est assez solide, mais c'est une équipe qui est très bien classée. Crystal Palace, aujourd'hui, ils ont 14 points, c'est autant que Chelsea et Leicester, qui sont 4e et 5e, donc Crystal Palace est 6e à différence de but, ils sont à 1 point d'Arsenal et à 2 points de Manchester City. Donc si City perd contre Crystal Palace, Crystal Palace passe devant City au classement. Imaginez la surprise totale et surtout l'humiliation pour Pep Guardiola et ses joueurs. Sauf que, encore une fois, Palace à domicile, c'est pas une équipe facile. Cette équipe londonienne entraînée par Roy Hodgson, l'ancien éphémère sélectionneur anglais, c'est vraiment une équipe qui joue pas mal, qui joue à l'anglaise. C'est une équipe avec des gros costauds derrière, des gros costauds au milieu et des gars qui vont vite devant. Et c'est une équipe qui pose souvent d'assez grosses difficultés aux grosses cylindrées du championnat, parce que ils sont très rugueux, ils savent attendre. Et ils savent laisser passer, on va dire, la tempête face à des grosses formations. Et puis, ils ont devant quelques joueurs intéressants. Alors, Zaha, qui a fait une très bonne saison la saison passée, est un peu en dedans en ce début de saison, mais ça reste quand même un danger permanent. Puis, il y a Jordan Ayew, qui renaît un peu de ses cendres. Il a eu quand même des saisons difficiles précédemment. Et là, il fait un bon début de saison sur le front de l'attaque de Crystal Palace. Donc voilà, attention pour Manchester City, qui a toujours ses problèmes en défense. Alors là, il y a John Stones qui revient, qui va être probablement associé à Otamendi en défense centrale. Mais Stones, c'est pas une assurance tout risque pour Guardiola, qui d'ailleurs l'aime pas trop. Les latéraux sont toujours un petit peu tremblotants. Ça risque de poser des problèmes encore une fois à City, et surtout les attaquants très véloces qu'il y a du côté de Crystal Palace pourraient bien en profiter pour aller semer un peu la pagaille dans cette arrière-garde Citizen.
Merci beaucoup Aurélien Devernois, notre consultant pour le football anglais. On va te retrouver bien entendu lundi après midi vers 17h05 pour débriefer tout ça dans l'après-match. On va aller du côté de l'Italie pour accueillir Simone Rovera. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. On attend cette défaite de Manchester pour placer finalement Massimiliano Allegri, qui attend une banque de touches importante. Donc, virez Solskjaer, prenez Allegri, voilà.
Exactement, un énorme technicien qui est au chômage. On ne comprend pas pourquoi, et qui pourrait justement permettre à Manchester United de retrouver les Red Devils, de retrouver les couleurs. Bah, parlons de ce qui te concerne directement, mon cher ami, parlons de la Serie A, la 8e journée, après avoir repris sa position tête du classement juste avant la trêve. La Juve affronte Bologne avec son statut de leader. Un match plutôt à la portée des coéquipiers de Cristiano Ronaldo.
Bah oui, sur les papiers, les fameux papiers que tous les entraîneurs lient et après nous détaillent en conférence de presse. Aujourd'hui, Maurizio Sarri, je suis toujours dans la tête avec Massimiliano Allegri. Aujourd'hui, Maurizio Sarri expliquait quand même de craindre beaucoup Bologna, qui est une équipe, imaginez, qui est l'équipe qui a récupéré plus de ballons dans tous les championnats. C'est une des équipes qui frappe plus au but du championnat italien, et surtout c'est une des équipes qui subit moins des tirs des équipes adverses. Donc, c'est une équipe qu'il faut, face à laquelle il faut jouer et qui vit l'enthousiasme aujourd'hui de ce début de saison réussi, Bologne, avec l'histoire de Mihajlovic, la maladie qu'il est en train de gagner, qu'il est en train de battre, donc qui donne une force supplémentaire à cette équipe. Et donc, Maurizio Sarri a beaucoup peur de ces de cette match face à Bologne, aussi parce que, attention, les seuls deux matchs qu'il n'a pas gagné cette année, c'est après la trêve. Donc, c'est un match piège, on considère, en Italie. Et Maurizio Sarri, pour ça, va affronter ces matchs de retour après la trêve avec l'effectif au complet. Pas de turnover, même s'il y a la Ligue des Champions dernière, même si la semaine suivante, la Ligue des Champions, il y aura aussi des matchs en semaine. Donc, un autre tour de force pour les Bianconeri. Mais Maurizio Sarri devra mettre vraiment l'équipe titulaire. Et aujourd'hui, quand on dit équipe titulaire de la Juve, il y a Gonzalo Higuaín et pas Paulo Dybala. Ça, c'est toujours les débats plus importants, plus forts de l'Italie. Pourquoi Higuaín plutôt que Dybala? Maurizio Sarri aujourd'hui a dit ils ont les deux les mêmes possibilités de débuter. Mais selon les informations que j'ai reçues, que j'ai, c'est bien Gonzalo Higuaín qui devrait être titulaire demain soir.
Voilà, donc pour cette rencontre, il y a aussi ce choc qui va opposer deux entraîneurs qui vont débuter leur mission de sauvetage de leur club respectif, Stefano Pioli chez l'AC Milan et Claudio Ranieri à la Sampdoria de Gênes, Simone.
Bah oui, c'est la chose incroyable concernant la Sampdoria, c'est que en début de saison, le président Massimo Ferrero parler un peu d'Europe avec Di Francesco, le rêve c'était aller plus loin sur l'onde positive de la saison dernière avec Quagliarelli le meilleur buteur. Là, il y a match déjà un choc incroyable, la Sampdoria face à la Roma, donc déjà un choc du cœur pour Claudio Ranieri, mais surtout la Sampdoria dernière du classement de Serie A, aujourd'hui dans les mots de Ranieri, vise quoi? Vise les maintiens. Donc, une revue des ambitions totalement à la baisse. L'idée de relancer Quagliarella, qui a marqué un petit but cette saison, donc on est très loin des 26 de la saison dernière, qui avait fait de lui meilleur buteur de la Serie A. Et l'ambition, si on peut parler d'ambition pour un club comme la Sampdoria, de jouer en maintien. Logique donc de prendre Ranieri, quelqu'un qui dans l'urgence arrive toujours à sortir des bons résultats, mais si aujourd'hui l'ambition, la dynamique de cette club c'est de jouer les maintiens, ça va être une saison très compliquée. De l'autre côté, la Roma avec beaucoup de blessés, on doute aussi de Zeko, qu'il a eu une fracture au visage, au poignet du visage avant la trêve, s'il peut jouer ou pas. Il y a beaucoup de blessés, Mkhitaryan, en défense, Florenzi, donc une Roma qui n'est pas au 100%, et ça va être un choc compliqué. Attention, tu as parlé des Pioli, qui va débuter face à un adversaire plutôt simple, Lecce sur les papiers, un promu qui fait des bons matchs et alterne avec des matchs avec beaucoup de buts encaissés. Pioli doit faire des choix très forts. On parle beaucoup de son choix fort qui pourrait être de mettre Piontek sur le banc des touches et lancer définitivement les jeunes Leao, le portugais qui est arrivé de Lille, qui fait déjà rêver les supporters. Mais l'autre choix plutôt qui est pas compris par les supporters du Milan, qui pourrait faire parler aussi nos auditeurs, c'est de mettre Bilia titulaire devant les milieux de terrain, au milieu de terrain, et laisser sur le banc Bennacer, meilleur joueur de la dernière CAN, qui pour Pioli n'a pas l'expérience nécessaire pour diriger les milieux de terrain du Milan.
Allez, rapidement, mon cher Simone Rovera, il y a aussi cette guerre ouverte entre l'entraîneur de Naples, bien sûr, Carlo Ancelotti, et sa vedette, Insigne. Qu'est-ce qui se passe?
C'est parce que déjà l'année dernière, les choses passaient pas très bien. Tout l'été, Carlo Ancelotti a dit oui à son président dans l'hypothèse de vendre Insigne. Insigne voulait prolonger et rester. Les clashs est arrivé avant le match face à Genk, donc Ligue des Champions, quand Insigne a su qu'il serait pas titulaire, il a refusé d'aller sur le banc des touches, et donc Ancelotti l'a envoyé en tribune.
aujourd'hui, le président de Naples cherche un peu de recoller les morceaux parce que la fracture est évidente. Ancelotti, à 60 ans, ça a une expérience énorme dans le monde du football, sait comment gérer certaines choses difficiles, mais là, se retrouve dans un cas compliqué parce qu'Insigne, c'est aussi le capitaine du Naples. Aujourd'hui, Ancelotti a dit les choses sont passées, on va recommencer un peu à zéro, mais l'impression, c'est que soit Insigne commence à être décisif sur le terrain, ou continuer à avoir des prétentions d'être titulaire, de jouer dans certaines positions, sans apporter des buts, des passes ou des matchs décisifs, son statut de leader de Naples deviendra bientôt celui des remplaçants de luxe.
Merci beaucoup Simone Rovera. On va maintenant, pour finir cette édition de l'avant-match, aller du côté de l'Allemagne pour accueillir David Lortolari. Salut David.
Salut Jalal, bonsoir à tous.
Alors je profite du fait que tous les autres consultants sont partis pour parler avec toi du football, le vrai, celui qu'on pratique en Bundesliga. T'es d'accord au moins David?
Oui, et d'autant plus cette année où il y a une vraie empoignade entre 6-7 équipes en haut du classement. C'est une Bundesliga complètement folle, Jalal.
Magnifique Bundesliga. En tout cas, les cadors du championnat d'Allemagne ont tous gros à jouer ce week-end avec 5 équipes à égalité à la 3e place, alors que le nouveau leader, Mönchengladbach, contre bien remporter le derby des Borussia, comme je le disais tout à l'heure, et plonger Dortmund d'Achraf Hakimi dans la crise. On va commencer d'abord par ce derby des Borussia, mon cher David Lortolari.
Oui, parce que c'est le principal thème dans les médias allemands, avec aussi bien sûr les états d'âme de Thomas Müller côté Bayern, ça c'est un autre chapitre, mais côté Borussia, c'est toujours un événement quand les deux se rencontrent. Il n'y a pas une grande distance géographique, mais surtout cette année, il y a Mönchengladbach qui a pris ce nouvel entraîneur, Marco Rose, que tout le monde s'arrachait, et Marco Rose a amené une fraîcheur dans cette équipe, les joueurs jouent pour lui, les joueurs se défoncent pour lui, le club est en tête du championnat. Il n'a pas trouvé ses marques encore en Coupe d'Europe, mais en championnat, ça va très bien. Et Dortmund, de son côté, un match dangereux parce que il y a beaucoup de questions en ce moment sur la capacité de Lucien Favre, justement, à réussir à emmener derrière lui son équipe. Il est mis en question par son patron Watzke, notamment, qui tient un discours pas très très favorable à Lucien Favre, et du coup ça fragilise l'entraîneur. Et pour que Dortmund reste dans la course, il va falloir au moins réussir un nul ce week-end contre Mönchengladbach. Ça va être forcément une ambiance très chaude, Jalal, et puis ça implique, comme on le disait, beaucoup d'équipes. Il y a toujours une possibilité quand même de gagner à l'extérieur, parce que le week-end qui a précédé, la journée qui a précédé, il y a eu un record en Bundesliga, il y a eu plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile, et ça c'est très inédit, ce qui veut dire quand même que beaucoup d'équipes peuvent aller gagner à l'extérieur, beaucoup d'équipes peuvent battre beaucoup d'équipes, c'est ce qui fait ce championnat très intéressant cette saison.
Voilà, tu vois les difficultés du Borussia Dortmund, de son entraîneur Lucien Favre, qui est clairement sous pression. Il dit, lui-même, il admet, j'ai pas le choix, je sais comment ça marche, c'est malheureusement comme ça, mais je continue. Est-ce que l'avenir de Lucien Favre à Dortmund commence à être en tout cas un sujet du côté des jaunes et noirs?
Complètement, c'est ça qui est fou, parce que ça va si vite. À partir des souvenirs qu'on avait encore il y a quelques semaines, où on se disait oh mais c'est super, ils sont très forts, ils résistent au FC Barcelone, on se souvient d'un match, un beau match de Ligue des Champions avec Paco Alcacer aussi qui chaque fois qu'il entrait marquait un but. Il sera absent ce week-end et c'est un événement, parce que bien sûr avec lui le Borussia est décisif, sans lui il a beaucoup plus de faiblesses, c'est très étonnant malgré toutes ses qualités collectives, mais ça dépend beaucoup d'un joueur qui est cet Espagnol Paco Alcacer, que Fred Hermel connaît bien, et ça montre qu'il y a une vraie fragilité mentale dans cette équipe. C'est ça le point faible, je crois, Jalal, de Lucien Favre, c'est qu'il n'a pas réussi à donner une force mentale à son effectif. Si on dépend d'un seul joueur, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'on n'est pas fort mentalement, et que donc on est à la merci d'un retour au score, on est à la merci d'un coup du sort, sorte un coup de malchance. C'est pas la qualité des joueurs qui est en question, c'est vraiment cette capacité à constituer une équipe forte, un bloc cohérent et qui soit craint des adversaires. En ce moment, c'est pas réellement le cas et c'est le principal problème, c'est le principal défaut reproché à Lucien Favre. Oui, pour répondre à la question, s'il a 2-3 mauvais résultats encore, il sera tellement fragilisé qu'il sera peut-être contraint de partir, ce qu'il a déjà fait de lui-même plusieurs fois par le passé dans les clubs précédents, souvenez-vous.
Alors une toute dernière question en une petite minute, tu en es capable, David. Munich battu à domicile par Hoffenheim début octobre, ce qu'il avait fait tomber de la première à la troisième place, espère bien entendu montrer un tout autre visage au moment d'affronter Augsbourg, pire défense de Bundesliga avec déjà 19 buts encaissés.
Oui, Augsbourg, une des équipes assez faibles cette saison, il y en a plusieurs, les promus aussi, et pour le Bayern c'est sans doute un bon moment parce que l'adversaire est quand même assez faible, un des médiocres adversaires de ce championnat. Et étant donné qu'il y a beaucoup d'autres matchs intéressants avec par exemple dès ce soir l'Eintracht Francfort contre le Bayer Leverkusen qui peuvent se neutraliser par exemple, ça peut être une belle occasion pour le Bayern de revenir en haut et de retrouver la sérénité qui lui manque dès qu'il y a un mauvais résultat comme c'était le cas la dernière journée. Le Bayern a toute une très très belle occasion, Jalal, de se refaire ce week-end.
Merci beaucoup David Lortolari, notre consultant pour le football en Allemagne. Il est 17h55 ici à Tanger, une heure de moins en temps universel. C'est la fin de cette édition de l'avant-match. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.
L'avant-match avec Jeannel Bouzrara.